Monseigneur Marcaillet, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cet entretien bimestriel diffusé conjointement sur Radio La Pourdie, Ratia et sur Radio Présence Lourde. Nathalie Chambon, bonjour à vous.
Bonjour Violaine, bonjour
vous
Monseigneur.
Êtes la responsable de la communication du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Avec vous, nous allons évoquer quelques points d'actualité de l'Église et de notre diocèse, avec déjà une première question concernant le dernier voyage du pape en Afrique.
Oui, la tournée africaine qui s'est donc achevée ce 23 avril a agi un peu comme un révélateur qui a imposé la stature internationale du pape Léon XIV, dévoilant des facettes jusque-là méconnues de son pontificat. Est-ce que selon vous, ce périple marque le début d'un pontificat plus politique et exigeant, ou doit-on y voir avant tout une simple mission de réconfort spirituel pour une église en pleine croissance en Afrique ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que si le pape a choisi l'Afrique, c'est précisément parce que, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, on pense en particulier à Saint Jean-Paul II et à Benoît XVI, considéraient l'Afrique comme le continent de l'espérance. D'abord parce que c'est là que se trouve la jeunesse du monde. Tous les autres continents sont en train de vieillir, y compris l'Asie, comme on le sait, alors qu'en Afrique, il y a une jeunesse qui rassemble à peu près 50% de la population. Et le pape est très soucieux de l'Afrique. Pourquoi ? Parce que l'Église est en pleine expansion, qu'il y a vraiment un phénomène d'évangélisation qui est en pleine croissance, mais c'est un pays qui possède beaucoup de richesses naturelles, de minerais en particulier, de pétrole, et que les pays du Nord exploitent de manière souvent honteuse. Hein, et le pape a été très, très ferme dans ce sens, c'est pour ça peut-être que vous parlez d'un pontificat politique. Non, il n'est pas politique au sens politicien du terme. D'ailleurs, on se rappelle la petite diatribe de Donald Trump vis-à-vis du pape, qui a répondu de manière très calme et sans rentrer du tout dans la polémique, dans l'avion, mais « je n'ai pas peur de l'administration Trump, je ne suis pas un politicien, je continuerai à annoncer l'évangile ». Et c'est au nom de l'évangile qu'il rappelle qu'on ne peut pas exploiter les richesses de l'Afrique au détriment de la dignité humaine de ceux qui y habitent, en les obligeant d'ailleurs à émigrer. Hein. Vous avez vu que, au fond, quand on regarde ce voyage en Afrique, où en effet le pape Léon XIV donne toute sa dimension internationale qui est reconnue, mais en même temps, il n'est pas un homme de rupture. Il n'est pas en rupture par rapport au pape François. D'ailleurs, il reprend volontiers les thèmes qui ont été développés sous le pontificat du pape François. Peut-être qu'il y a quelques infléchissements. Par exemple, sur l'immigration, il a beaucoup rappelé, il a beaucoup parlé aux jeunes, et en particulier lorsqu'il s'est adressé aux universités, lorsqu'il s'est adressé aussi aux chefs d'État et aux autorités publiques, il leur a dit « il faut servir votre pays, il faut servir le bien commun ». Il faut, dans la justice et l'équité, être vraiment les acteurs de l'avenir de votre continent. Et en ce sens, il a rappelé aux pays du Nord, aux États et aux multinationales qu'il fallait vraiment aider les jeunes Africains à rester dans leur pays, à ne pas être obligés d'émigrer. Hein, et comprenant d'ailleurs que les États peuvent avoir aussi une politique migratoire, comme l'Église l'a toujours dit, même si, une fois qu'ils sont là, ben, il faut les accueillir avec beaucoup de bonté, de générosité, de dignité, car c'est la parole de l'Évangile. Vous voyez comment ce pape a une parole équilibrée et une parole précise. C'est un canoniste, hein. Donc il redit des choses de manière très précise. Et je crois qu'en Afrique, il a été. C'est un des thèmes les plus importants que de redonner sa dignité au peuple d'Afrique et en fustigeant la corruption dans les gouvernements africains parfois, et puis l'injustice qui est aussi causée par les États du Nord.
C'est vrai qu'on découvre ce pape petit à petit, on ne sait pas trop encore, est-ce que justement on a envie de le mettre dans des cases, et il sort un petit peu des cases. Est-ce qu'on peut dire quand même que ça va être un pape de la paix? Il s'est beaucoup exprimé pour la paix, voilà, vu le contexte international, avec des phrases fortes. Est-ce que vous pensez que ça va être un peu sa marque de fabrique?
Alors ça fait partie de sa marque de fabrique, comme je pense tous les papes, hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je crois que ce qui est caractéristique aussi et que l'on a perçu à travers ce voyage en Afrique, comme dans toutes ses interventions depuis bientôt un an, hein, qu'il est le pape Léon XIV, c'est qu'en augustinien, en fils de saint Augustin, il met le Christ au centre, il ramène tout au Christ. Et si on parle de paix, c'est la paix qui vient du Christ. si on parle d'unité de communion, car on voit bien qu'il a le grand désir de tisser des liens de communion entre tous au sein de l'Église, d'apaiser les divisions, les tensions qui, c'est vrai, se sont multipliées cette dernière décennie. Eh bien, c'est vraiment en disant, c'est dans le Christ que nous trouvons l'unité et que nous trouvons la paix. Hein. In illo uno unum, hein, cette devise qu'il tire d'ailleurs de saint Augustin, qui veut dire « en celui qui est un », c'est-à-dire le Christ, « soyons un ».
Alors le 12 avril, justement, au moment de son voyage en Afrique, le pape a écrit une lettre aux cardinaux sur le thème de la mission. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Alors c'est en effet une courte lettre adressé aux cardinaux, qui annonce aussi un texte un peu plus développé pour préparer le prochain consistoire. Rappelez qu'il avait déjà réuni un premier consistoire et qu'il a vraiment le désir de gouverner l'Église en consultant largement et fréquemment le collège des cardinaux, ce qui ne se faisait pas trop sous le pontificat de Pape François, faut le reconnaître. Et c'est ce qu'avaient demandé d'ailleurs les cardinaux lors des congrégations générales qui précédaient le conclave, qu'il puisse y avoir un peu plus de synodalité dans le gouvernement central de l'Église. Et donc il avait déjà abordé un certain nombre de points. Là, il avait réservé pour ce consistoire deux points, celui de la liturgie, qui n'avait pas été suffisamment traité la première fois, et puis celui de la mission. Et donc là, il rappelle l'importance de l'exhortation apostolique du pape François, Evangelii Gaudium, sur la joie de l'évangile. Et il demande qu'on fasse le point par rapport à la mise en œuvre de cette exhortation apostolique, qui, dans la suite de ses prédécesseurs, voulait donner un véritable élan missionnaire, un tournant missionnaire à l'Église d'aujourd'hui, hein, pour rejoindre ces masses qui s'éloignent de plus en plus et qui sont marquées par des cultures qui sont en dissonance, parfois en opposition frontale, avec l'Église et avec l'Évangile. Donc il rappelle des choses essentielles, et j'avoue avoir été, en lisant cette lettre, très conforté dans ce projet missionnaire que nous avons aussi dans notre diocèse, et qui est porté en particulier par cette école de disciples missionnaires qui est le parcours Cléophas. Hein, je vous lirai deux petits passages. Il dit, au niveau personnel, l'Église appelle chaque baptisé à renouveler la rencontre avec le Christ en passant d'une foi simplement reçue à une foi réellement vécue et exercée. Hein, il insiste beaucoup sur la vie spirituelle des baptisés, le primat de la prière. Bon, et au niveau diocésain, ressort clairement la responsabilité des pasteurs à soutenir résolument l'audace missionnaire en veillant à ce qu'elle ne soit pas alourdie, étouffée par une organisation excessive. On a toujours l'impression parfois, quand l'Église parle d'elle-même et de son fonctionnement, elle s'enferme dans son organisation, alors qu'elle existe, comme disait Paul VI, pour évangéliser. Donc relancer cette audace missionnaire qui parfois bouscule un peu les structures qui sont parfois trop pesantes et qui étouffent cet élan missionnaire. Il dit, de tout cela découle une compréhension de la mission profondément unitaire, une mission christocentrique et kérigmatique qui naît d'une rencontre avec le Christ, capable de transformer la vie et qui se diffuse par attraction plus que par conquête. Bon, j'en dis pas plus, mais je crois que là, c'est pour nous aussi le moyen de relancer toujours l'élan missionnaire.
Cet élan missionnaire, et on est aussi un peu bousculé dans notre foi par tout ce que vivent les chrétiens d'Orient. Récemment, des témoignages de chrétiens du sud Liban, qui malgré la destruction de leur foyer, l'exil, affirmaient que la croix qu'ils portent deviendra un pont vers une résurrection. Vous appelez régulièrement notre diocèse à la prière pour ces chrétiens, ces premiers chrétiens au Moyen-Orient. Comment cette espérance qui est vécue par ces chrétiens d'Orient peut-elle bousculer notre propre foi en Occident ?
C'est sûr, quand on voit les chrétiens du Liban, mais pas seulement les chrétiens d'ailleurs, hein, parce que c'est une population qui est, comme on le sait, très mélangée, hein, toutes les confessions se retrouvent. Il y a sans doute le Hezbollah qui est soutenu par l'Iran et qui promeut un islamisme politique qui est destructeur et en opposition frontale avec le sionisme, hein, qui est aussi assez destructeur, comme on le voit au sud du Liban. Et puis les chrétiens, comme la plupart des populations qui vivent dans ces contrées, sont toujours entre le marteau et l'enclume. Mais je pense très particulièrement aux chrétiens, c'est vrai, dont la présence est essentielle pour, la paix dans ces sociétés. Car si on veut qu'il y ait une certaine harmonie entre les différentes religions et les différents peuples, ben, les chrétiens ont à travers l'histoire une place décisive hein, et tout à fait déterminante. Et c'est vrai que nous sommes très touchés de voir ces chrétiens du sud Liban à qui on annonce régulièrement qu'on va détruire le village parce qu'il y a des Hezbollah, soi-disant, qui se cachent, et des chiites islamistes. Et du coup, ben, beaucoup demeurent sur place, restent sur place, sont prêts à donner leur vie parce qu'ils ne veulent pas quitter cette terre hein, qui les a portés et qui a en effet connu le Christ à l'origine. Donc nous avons à les soutenir, l'œuvre d'Orient, l'aide à l'exil en détresse, SOS Chrétien d'Orient, beaucoup d'associations hein, se mobilisent, non seulement dans la prière, mais aussi de manière concrète, au service de ces chrétiens d'Orient pour qu'ils puissent vivre en paix et continuer à donner leur témoignage.
Un dernier mot, Monseigneur, sur l'actualité du pape. On a entendu dire qu'il viendrait peut-être à Lourdes fin septembre. Est-ce que vous en savez plus ?
Alors, ce que je sais, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune confirmation officielle, mais il semble quand même hein, que l'annonce, qui pour l'instant est encore une rumeur, de la venue du pape en France, à Paris et à Lourdes, aura effectivement lieu à la fin du mois de septembre.
Donc ça sera un bel événement pour notre diocèse aussi. Nous reprenons avec vous, Monseigneur Hayet, et nous allons parler maintenant de l'actualité de l'Église en France avec cette assemblée plénière qui a eu lieu à Lourdes du 24 au 27 mars, dont bien sûr vous avez fait partie. Vous avez traité de divers thèmes, notamment celui de l'éducation. C'est vrai qu'on est dans un contexte d'hostilité croissante envers les établissements catholiques. On a parlé aussi, bien sûr, dans notre diocèse, de ce procès de l'assassin d'Agnès Lassalle, donc, dont le verdict a été donné vendredi. On est vraiment dans un contexte un peu de violence. Je crois que le pape, justement, vous a encouragé à défendre la dimension chrétienne de l'enseignement catholique. Qu'est-ce qui est ressorti des réflexions que vous avez pu avoir entre évêques, donc à l'Assemblée plénière à Lourdes ?
Alors d'abord, comme vous le soulignez, le pape a adressé, comme à chaque Assemblée plénière, un message par l'intermédiaire de son secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, une lettre qui évidemment reprend les points de notre ordre du jour, et en particulier celui de l'éducation. Je vous lis ce passage qui est quand même très significatif. Le Saint-Père a pris connaissance des sujets que vous avez l'intention de traiter et plusieurs ont suscité son intérêt. En particulier, vous allez aborder le thème de l'éducation, un thème qui avait particulièrement retenu l'attention du pape François en raison de son importance capitale, tant pour l'avenir du monde que pour l'annonce de l'Évangile. Vos travaux se déroulent dans le contexte d'une hostilité croissante envers les établissements catholiques, avec la remise en cause de leur caractère propre, dans le respect des convictions de chacun, c'est la liberté de conscience, et avec toujours le souci d'accueillir largement, parce que nous sommes ouverts à tous, précisément, le pape vous encourage à défendre avec détermination la dimension chrétienne de l'enseignement catholique qui, sans référence à Jésus-Christ, perdrait sa raison d'être. Donc ça, c'est important au contexte actuel parce que c'est vrai que les contrôles que l'État multiplie, en particulier dans nos établissements d'enseignement catholique, sous contrat d'association, ont quelquefois dépassé leurs limites, leur champ d'action, et se sont intéressés trop au caractère propre qui ne les regarde pas. Le nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique, Guillaume Prévost, a été particulièrement attentif, particulièrement vigilant, et monté au créneau et a interpellé le ministre de l'Éducation nationale qui a envoyé une circulaire à tous les recteurs et pour que les inspections ne touchent pas au caractère propre, donc soient limitées à tout ce qui concerne la pédagogie, la bientraitance, etc., etc. D'ailleurs, nous sommes sortis grandis de ces contrôles, même si ça pèse beaucoup sur les chefs d'établissement, je tiens à le dire ici. Et donc, ça peut conduire aussi ce climat d'opposition, d'hostilité, avec cette commission parlementaire, hein, Vannier, comme on le sait, qui là aussi dépasse les bornes de la liberté d'enseignement et liberté éducative. Certains chefs d'établissement pourraient adopter une position de repli par rapport à ce caractère propre qui nous définit et qui est tout à fait défini dans le statut promulgué par les évêques en 2013-2014. Au contraire, nous y voyons une opportunité pour, dans la liberté de conscience et bande des élèves, et parce que nous sommes ouverts aussi à tous, eh bien, une opportunité pour annoncer davantage l'Évangile dans les droits qui sont les nôtres et qui sont reconnus par la loi. Mais tout ceci s'inscrit aussi dans un champ plus large, qui est celui d'un thème triennal choisi par les évêques de France, qui est précisément le thème de l'éducation. Faisant suite, en effet, à ce fameux pacte éducatif mondial qu'avait voulu le pape François, en dessinant un ensemble de priorités dans l'éducation comme quelque chose de profondément important pour l'avenir de notre société, de l'humanité, et la contribution de l'Église à ce pacte. Et le pape Léon XIV, comme on le sait, a écrit une lettre apostolique en 2025, en octobre 2025, pour le 60e anniversaire de la déclaration Gravissimum Educationis sur l'éducation chrétienne du Concile Vatican II, une lettre qui est intitulée « Dessiner de nouvelles cartes d'espérance », où il ajoute aux priorités proposées par le pape François trois thèmes que nous avons précisément choisis pour notre réflexion triennale sur l'éducation. Le thème de la numérisation humaine, qui sera le premier thème que nous aborderons cette année, en l'occurrence tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, comment c'est au service de l'homme ou au contraire, et le pape insiste beaucoup là-dessus. On attend d'ailleurs une encyclique qui devrait paraître, la première, très prochainement, dont le nom pourrait être Magnificat Humanitas, Humanité Magnifique, sur laquelle il va précisément insister. On l'a vu en Afrique aussi, le nombre de fois où il insistait sur l'intelligence artificielle qui peut déshumaniser les relations entre les hommes et donc attenter à la dignité de la personne humaine. Deuxième thème, l'intériorité, que nous aborderons en second. Et le troisième thème, le thème de la paix, l'éducation à la paix, désarmée et désarmante, selon l'expression que le pape Léon XIV, en effet, ne cesse de répéter depuis le balcon de la Loggia lorsqu'il est apparu pour la première fois le 8 mai dernier.
Un autre thème que vous avez abordé, c'est la question des abus dans l'Église avec ce nouveau dispositif Renaître, donc qui a été mis en place. Alors, comment est-ce qu'il va être décliné concrètement dans notre diocèse? Est-ce qu'il va y avoir toujours, j'imagine, cette délégation à la prévention, la cellule d'écoute? Et comment ce dispositif Renaître va s'agréger à cela?
Alors, ça n'est pas encore tout à fait abouti, d'autant plus que ce dispositif, quand il a été voté par les évêques à la dernière assemblée plénière et donc publié, a quand même provoqué des réactions, en particulier chez un certain nombre d'associations de victimes, qui, peut-être parce que les choses n'ont pas été assez bien expliquées, mais qui n'ont pas satisfait, en tout cas, un certain nombre de victimes. Pourquoi ? La fin du mandat de l'INIR était annoncée déjà depuis un certain temps. L'INIR qui est l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, qui est une instance donc nationale, qui, grâce au fonds Selam abondé par les évêques régulièrement, pouvait discerner le taux d'indemnisation qui permettrait de reconnaître et de réparer pour des victimes pour lesquelles la justice n'a rien fait parce que c'est prescrit ou parce que les fauteurs sont décédés. Et donc c'était au niveau national avec des gens très compétents, avec beaucoup de compétences professionnelles, de bienveillance, d'attention, et qui ont traité les cas qui pouvaient leur être indiqués par les évêques par le biais de nos cellules d'écoute diocésaines, ou qui pouvaient directement s'adresser, et il y avait une espèce de dialogue qui s'établissait entre l'INIR et les évêques pour vérifier la vraisemblance et le parcours des prêtres qui pouvaient être incriminés. Aujourd'hui, l'INIR terminant son mandat, comme c'était prévu, il y avait une échéance, on met en place un nouveau dispositif qui, c'est vrai, mettra plus en action les cellules d'écoute, mais qui vont nécessiter forcément une formation supplémentaire, parce que pour l'instant, nos cellules d'écoute accueillent, mais ne sont pas faites pour accompagner. Ensuite, elles amènent à l'évêque qui les réorientait vers l'INIR, pour ce qui est de ceux qui avaient été attentés par des prêtres, clergés diocésains, ou vers la CRR, hein, commission reconnaissance de réparation pour les instituts religieux.
Donc ce sera davantage décentralisé.
Alors, ce n'est pas davantage décentralisé, c'est que ça partira davantage de la base, mais nos membres de nos cellules d'écoute seront formés aussi pour mieux discerner. Donc le premier travail se fera dans les diocèses, d'accord, ce qui est quand même une lourde responsabilité, et ensuite sera toujours orienté vers ce dispositif national qui va se mettre en place et qui arbitrera de manière définitive la manière de reconnaître et de réparer, en particulier à travers une indemnisation. Donc le fonds CELAM continue d'être abondé pour l'instant par les diocèses. Alors, quel est finalement ce qui a été qui n'a pas satisfait les associations de victimes? C'est qu'ils ont l'impression que cette instance ne serait plus indépendante. Mais je ferai remarquer que la présidente de l'INIR était nommée par les évêques et que les fonds dont l'INIR disposait pour indemniser les victimes venaient aussi de ce fonds abondé par les diocèses. Donc non, il ne faut pas croire qu'elle sera dépendante des évêques. Ils travailleront de toute façon de manière indépendante, mais il y a forcément un lien, et un lien aussi avec le tribunal pénal national canonique que nous avons fondé il y a quelques années, de manière à ce que si la justice étatique est arrêtée, la justice canonique peut continuer, et donc il faut attendre qu'il y ait une décision de justice ou non, si elle ne peut pas exister, pour pouvoir aller jusqu'à la justice restaurative qui restera le but de ce dispositif renaître, qui pourrait aussi avoir un autre nom, car il semble aussi que ce nom n'a pas été bien pris par les associations de victimes.
Monseigneur, troisième point que vous avez abordé à Lourdes, le thème de la liturgie auquel le Saint-Père est particulièrement attentif, notamment avec cette lettre qu'il vous avait adressée sur le Vetus Ordo. Vous avez toujours plaidé pour un enrichissement mutuel des deux formes liturgiques et on sent vraiment une atmosphère d'apaisement. Pensez-vous que les fidèles qui sont de différentes sensibilités vont peut-être mieux prier ensemble, mieux se découvrir? Et comment est-ce qu'ils peuvent, au sein de notre diocèse, se sentir de fait pleinement accueillis? Et pensez-vous que, justement, le fait de pouvoir aborder plus sereinement ces différences puisse être vraiment un vecteur d'apaisement et d'enrichissement?
Alors, c'est vrai que ça reste un problème qui a ressurgi de manière nouvelle, je pense, après la publication du motu proprio du pape François, Traditionis Custodes, qui a recréé des tensions, des crispations, en particulier dans le monde tradit, comme on dit, dire ceux qui sont attachés au Vetus Ordo. Et on sent en effet que face à ces tensions, comme d'autres tensions dans l'Église, c'est vraiment la marque de fabrique, si je puis dire, du pape augustinien que nous avons, qui est le pape Léon XIV, qui veut apaiser, qui veut établir l'unité, la communion. Je vous lis le passage qui comprend la liturgie dans cette lettre qui est adressée par le cardinal Parolin au nom du pape Léon XIV, évidemment, aux évêques de France, réunis en assemblée plénière en mars dernier. En parlant de cette question, il dit « Il est préoccupant que continue de s'ouvrir dans l'Église une douloureuse blessure concernant la célébration de la messe, le sacrement même de l'unité. » Après avoir dit d'ailleurs que les communautés liées au Vetus Ordo sont en croissance. C'est vrai que c'est impressionnant de voir le nombre de jeunes, finalement, de familles jeunes, qui, même si c'est une petite minorité dans l'ensemble de ceux qui fréquentent nos églises, mais qui ont un visage jeune, que nous ne trouvons pas toujours dans nos églises comme nous le savons. Pour la guérir, dit le pape, enfin dit le cardinal au nom du pape, un regard nouveau de chacun porté sur l'autre dans une plus grande compréhension de sa sensibilité est certainement nécessaire. Un regard pouvant permettre à des frères riches de leur diversité de s'accueillir mutuellement dans la charité et l'unité de la foi. Veuille l'Esprit Saint nous suggérer des solutions concrètes permettant d'inclure généreusement les personnes sincèrement attachées au Vetus Ordo dans le respect des orientations voulues par le Concile Vatican II en matière de liturgie. Vous voyez, tout est dit sur la volonté d'apaisement et de communion. Quelles seront les solutions concrètes que le pape nous proposera, j'en sais rien pour ma part, ça lui appartient, même si je sais qu'il consulte beaucoup, hein, qu'il reçoit pas mal de groupes appartenant à ces fidèles attachés au Vetus Ordo, pour mieux le comprendre, parce qu'il n'est pas forcément lui connaisseur de tout cela, même si c'est américain, il était longtemps au Pérou, ce qui ne devait pas être une préoccupation première. Et il voit qu'il peut y avoir aussi des gens sincèrement attachés au Vetus Ordo, comme j'en rencontre aussi moi, dans le diocèse. Hein. Oui, moi je pense qu'il faut entrer dans une, comment dire, dans une acceptation mutuelle des uns et des autres, en établissant des relations de confiance, ça ne veut pas dire que tout est permis, mais il faut commencer par ça. Hein. Je crois que dans notre diocèse, où j'ai essayé de le faire depuis que je suis là, je sens qu'il y a de la paix. Il y a des passerelles entre les uns et les autres. Il n'y a peut-être pas un enrichissement mutuel au sens liturgique du terme, comme le voulait d'ailleurs le pape Benoît XVI, et j'espère qu'on ne reviendra pas sur motu proprio, ça c'est sûr, mais à cette notion d'enrichissement mutuel. Mais il y a un enrichissement mutuel quand même entre les communautés, entre les fidèles. Il y a une plus grande fraternité, en particulier au niveau des jeunes, qui ne sont pas marqués par les clivages des générations passées, comme ma génération quand j'étais jeune.
Merci Monseigneur Ayer, on va continuer pour cette troisième et dernière partie de notre émission diffusée sur Radio Présence et Radio Lapourdie. À tout de suite. Nous vous retrouvons Monseigneur Ayer pour cette dernière partie de notre émission. Nous allons parler plutôt des événements diocésains avec donc nos deux nouvelles maisons diocésaines qui sont en cours. Alors celle de Pau a été inaugurée, ça y est, le 19 mars dernier. Vous avez parlé de la volonté qu'elle soit un oasis pour la ville de Pau et le Béarn. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelles sont vos attentes sur cette nouvelle maison diocésaine de Pau?
Alors les maisons diocésaines, d'une manière générale, celle de Pau et celle qui est en construction, bien avancée maintenant, de Bayonne, sont appelées des oasis, en effet, au sens où Benoît XVI disait que dans les déserts de notre monde d'aujourd'hui, qui sont à la fois des déserts intérieurs et des déserts extérieurs, une oasis, c'est un lieu où l'on va se ressourcer, j'ai dit dans la prière, ça c'est sûr, dans la communion fraternelle, accueillant toutes sortes de mouvements, d'associations de fidèles, de sensibilités, de classes d'âge aussi des fidèles, qui c'est vraiment leur maison diocésaine, et aussi dans la formation. Et j'ai cité là trois des cinq essentiels dont on parle aujourd'hui pour la vie de l'Église, d'une Église qui vit de manière saine et sainte, tirée d'ailleurs des Actes des Apôtres, de la description de l'Église primitive dans les Actes des Apôtres. Et d'où l'on peut entrer et sortir, parce qu'une oasis, ce n'est pas une forteresse, c'est un lieu qui est ouvert, et donc on peut sortir ensuite pour aller se mettre davantage au service des plus pauvres, des plus éloignés, et annoncer l'Évangile à tous, ensemble. Vous voyez donc les cinq essentiels sont cités. Et il faut que ces maisons soient vraiment ces oasis, voilà, où, encore une fois, on se ressource dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la formation, et de là, eh ben, on va dans le monde pour servir les pauvres et annoncer l'Évangile à toute la création.
Alors à Pau, donc, elle a été inaugurée avec donc cette maison pour les étudiants, une maison familiale pour les familles, un accueil des pauvres, comme vous le disiez, et puis c'est la communauté des chanoines pour la prière. À Bayonne, ce sera un petit peu différent, mais il y a quand même cette volonté de communion et de rassemblement des forces vives du diocèse. Où est-ce qu'on en est alors pour Bayonne?
Alors le gros œuvre est terminé, hein, comme on peut déjà s'en accorder quand on passe à côté du parc Saint-Léon. On en est dans le second œuvre, c'est-à-dire c'est les cloisonnements, les canalisations, les enfin tout ça, j'y connais rien, mais enfin je vois bien que ça avance bien, et ça avance tellement bien que normalement, s'il n'y a pas de d'impair, elle devrait être quasiment livrée fin 2026, début 2027, quoi. Donc il faut imaginer une inauguration au premier trimestre 2027. Donc c'est une maison qui a plus d'ampleur, sans doute, je dirais, que la maison de Pau, qui d'abord qui est pour le Béarn, hein, et pour la Saint-Paloise. Là, c'est pas seulement pour le Pays-Bas, c'est pour l'ensemble du diocèse, parce que se trouvera la maison de l'évêque et les bureaux de l'évêque, se trouveront les services pastoraux et administratifs, la curie, mais aussi l'enseignement catholique, la communication, et puis il y aura aussi, au dernier étage, l'hébergement de l'évêque, et aussi des appartements T2, T3, pour des prêtres qui ne sont évidemment pas éligibles à l'EHPAD, mais qui, à 75 ans, aspirent à se retirer, tout en rendant des services, ici ou là, dont on a forcément toujours besoin. Donc c'est une maison qui est beaucoup plus complète, je dirais, mais plus resserré autour de, j'allais dire, de l'organisation de l'Église, mais conçu de telle sorte que tout le monde se retrouve avec un patio central et donc qui favorisera certainement la communion entre tous.
Mais on gardera l'évêché, beaucoup de gens posent la question, l'évêché...
Bien sûr, il ne s'agit pas d'aliéner le patrimoine du diocèse, l'évêché actuel sera conservé. C'est le clergé de la cathédrale qui y résidera, en tout cas là où résidait l'évêque, même si je garde encore une salle pour pouvoir recevoir en venant à la cathédrale si besoin est. Et puis ensuite, l'officialité demeurera là, quelques bureaux aussi, pour des associations comme le clerc, comme la cellule d'écoute, etc. Et des appartements qui seront mis en location, les archives actuelles qui sont remis en bail commercial, qui sera assez nécessaire aussi pour l'animation de ce quartier, donc ça a aussi une dimension sociale. Et donc forcément qu'on sera obligé de se défaire du rectorat actuel, que le bâtiment de la communication pourra être mis en location pour des professions libérales. Donc il y aura aussi, si vous voulez, dans le modèle économique de la maison diocésaine, il y aura des apports, des revenus, sachant évidemment que nous allons réduire de 50% la surface actuelle disponible pour la mission, et en mutualisant les services et en ayant des techniques aussi, des technologies plus modernes pour les fluides, pour le chauffage, etc., on va forcément faire à moyen terme de grosses économies de fonctionnement.
Monseigneur, dans ce temps pascal, nous sommes toujours dans la joie des baptêmes de ces 115 catéchumènes lors des vigiles pascales, de la vigile pascale, pardon. Pouvez-vous juste nous redire un petit mot comment ont-ils trouvé la foi? Comment est-ce que ces jeunes qui demandent le baptême ont pu cheminer? Vous nous aviez dit que vous aviez été édifié par la lecture de leurs lettres lors des appels décisifs. Est-ce que vous pouvez revenir sur leur parcours?
Alors, ils sont très diversifiés, les parcours. Hein. C'est vrai qu'une grande majorité de ces 115 catéchumènes sont plutôt jeunes, hein, ce qui correspond d'ailleurs à une moyenne nationale, puisque au niveau national, parmi les 13 234, je crois, catéchumènes adultes, 82% ont entre 18 et 40 ans. Donc, de fait, c'est plutôt une génération jeune. Leurs parcours sont très diversifiés, même si on voit bien qu'il y a une quête de sens, qu'il y a une recherche de vérité, qui a une recherche aussi d'identité dans une société où il n'y a plus de repères, qui est gagnée parfois, en tout cas du point de vue médiatique et dans les grandes métropoles, par ce qu'on appelle la culture woke, qui est très déstructurante et qui est dans la déconstruction permanente des racines culturelles et profondément humaines de notre civilisation et chrétienne par-dessus le marché. La montée de l'islam aussi, et d'un certain islam radical, même s'il ne concerne pas tous les musulmans, tant s'en faut, a pour effet, pour beaucoup de ces jeunes, une espèce de sursaut identitaire qu'ils vont trouver dans l'Église dans un premier temps, même si après ils vont faire tout un chemin, en effet. Et ce qui frappe l'itinéraire de tous ces catéchumènes, c'est qu'il y a un moment où ils ont vraiment rencontré le Christ, comme quelqu'un de vivant qui les appelle à le suivre, et au sein d'une communauté, car ils ont fait l'expérience aussi de participer à une messe dans une de nos nombreuses paroisses, et ont été touchés par une communauté qui se rassemble, qui prie, mais ils n'ont pas les codes, ils ne se sentent pas légitimes, mais ils sont attirés. Et toute la question pour nous, c'est de savoir comment les accompagner, pas seulement dans le temps du catéchuménat, mais après, hein, le néophyta. Il y a un concile provincial en ce moment en Île-de-France qui évidemment suscite l'intérêt de tous, Et donc, il y a une réflexion que nous mènerons aussi avec le conseil prélatéral au sein du diocèse. Moi, je dirais qu'il faut que nos communautés paroissiales soient plus impliquées dans la préparation des catéchumènes au baptême. Souvent, les catéchumènes sont des gens qu'on ne connaît pas, qui sont invisibles, qui se rassemblent avec quelques paroissiens privilégiés, qui sont coucounés d'ailleurs, et quand ils sont baptisés, ils sont balancés dans une communauté qui ne les connaît pas, et ils finissent par finalement quitter parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'appartenir à une communauté. Comment les catéchumènes doivent être identifiés dès lors qu'ils se préparent au baptême dans les communautés? Comment est-ce qu'ils sont mis en contact avec toute la communauté? Comment les fidèles prennent leur responsabilité d'entrer en relation gratuite, informelle, par une conversation à la fin d'une messe, par une invitation à prendre un pot, un dîner, une activité, un service, de manière à ce qu'ils puissent grandir et se stabiliser dans la communauté chrétienne?
Ce vendredi 1er mai, c'est le pèlerinage des vocations, un grand pèlerinage provincial. Donc on va pèleriner avec 5 diocèses de notre province. Je crois que c'est la 2e édition. Quel est l'objectif de cette journée où tout le monde est invité?
L'objectif, c'est la prière pour les vocations. Ça se situe dans la suite du dimanche des vocations, qui est le 4e dimanche de Pâques, le dimanche du bon pasteur. Et c'est d'inviter de manière communautaire, donc en communion avec tous les diocèses de notre province, d'inviter les familles en particulier, mais tous sont invités, les familles à prier pour les vocations. Hein, parce que on sait bien que une vocation est appelée à naître dans une famille chrétienne. C'est vrai que la crise de la famille est aussi source de crise des vocations, comme on dit souvent, et même s'il y a beaucoup de vocations qui naissent dans des familles qui ne sont pas nécessairement chrétiennes aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il faut promouvoir la famille chrétienne pour susciter des vocations au mariage chrétien, à la vie consacrée et au sacerdoce. J'espère que la date permettra une mobilisation. Je rappelle un petit peu que c'est important de pouvoir y participer, de s'inscrire. Tous les renseignements sont donnés, je crois, sur le site du diocèse, dans les paroisses disponibles aussi. Et je crois que c'est important de faire corps, hein, et de faire nombre pour que notre prière puisse être effective et toucher vraiment le cœur du Seigneur.
Quelques nouvelles du séminaire. Il y a eu les portes ouvertes, enfin la journée découverte samedi dernier, et on a une ordination cette année.
Voilà, donc le 27 juin, à 10h, à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, j'ordonnerai prêtre pour le service de l'Église, un cardinal diocèse, Abel, hein, qui est un séminariste du séminaire Redemptoris Mater, mais qui est diocésain aussi, et qui lui accomplira sa mission par convention avec l'archevêque de Bordeaux, dans le diocèse de Bordeaux, comme me l'a demandé Mgr Jean-Paul Jammes.
Et donc il sera bien ordonné chez nous et incardiné chez nous.
Et incardiné chez nous, bien sûr. Oui, il sera prêtre du diocèse de Bayonne.
Il y a également un diacre de la communauté Saint-Martin qui va être ordonné.
Oui, dont Séverin, qui était en stage à Biarritz pendant toute cette année, et qui, nous l'espérons, sera prêtre dans cette même communauté à Biarritz lorsqu'il aurait été ordonné. Donc nous les accompagnons en tout cas tout à fait tous les deux de notre prière.
Et puis donc de nombreux propédeutes cette année qui on espère vont continuer l'année prochaine, on le saura.
Voilà, 5 propédeutes, mais c'est la liberté des enfants de Dieu, les vocations ne nous appartiennent pas et il faut évidemment qu'ils puissent se déterminer de manière parfaitement libre. Donc ils feront une retraite d'élection au terme de cette année de propédeutique. Et puis après, c'est le Seigneur qui fait, c'est pas nous.
Merci beaucoup, Mgr Ayer, évêque de Bayonne, Lescarré-Oloron. Merci à vous, Nathalie Chambon, responsable de la communication du diocèse. Merci à Mickaël Faury, à la technique. Et puis à très bientôt sur Radio Présence et Radio Lapourdie.